Je vais commencer par vous présenter nos invités. José Dehay, chef opératrice du film, que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir dans cette même salle, je me rappelle, pour Tirésia. Je pense que vous aurez des questions, j'espère, à lui poser, parce que dans un lieu où il n'y a aucune lumière naturelle qui rentre, la lumière du cinéma est très importante. À côté d'elle, Noémie Lvovsky. Alors, vous la connaissez, bien sûr, par les films qu'elle a fait comme réalisatrice, Oublie-moi, La vie ne me fait pas peur, Les sentiments, Faut que ça danse, mais aussi on la connaît et on l'aime comme actrice dans des films d'Arnaud de Pléchin, de son amie Valéria Bruni Tedeschi. Récemment, on l'a vue d'ailleurs dans. C'était à Cannes, c'était la maman du héros dans Les Beaux Gosses. Alice Barnol, je crois que c'est son premier rôle à l'écran. Bertrand Bonello. Bah, je pense, j'espère que vous suivez comme moi sa carrière, son cinquième long métrage, quelque chose d'organique, Le pornographe avec Jean-Pierre Léaud, Tirésia, De la guerre et aujourd'hui à l'Apollonide, donc Souvenir de la maison close. Jasmine Trinca, alors ceux qui viennent à Cannes en tout cas la connaissent bien, on se souvient des films de Nanni Moretti. La chambre du fils, le caïman, on se souvient aussi de Nos meilleures années, quelle révélation, je me rappelle. Quoi d'autre? Les films de Michele Placido, évidemment, dans lesquels elle joue. Et Adzierzi, je vous la présente à peine, puisque vous la connaissez, La graine et le mulet, d'autres films depuis. Cette année, deux films en compétition à Cannes, puisque bientôt le film La source des femmes de Radu Mihailianu. Prix d'interprétation à Venise pour La graine et le mulet. Voilà. Je vais passer la parole à madame ici qui avait levé la main très tôt.
Bonjour, Émilie Olivier de RCF Alpha. J'avais une question pour Bertrand Bonello. Vous avez choisi les actrices non pas dans une logique individuelle, mais dans une logique de groupe. En tout cas, j'ai lu ça. Et comment vous avez composé, entre guillemets, cette équipe? Merci.
En effet, pour faire un groupe, il faut d'abord des individus. Donc, chaque choix a été régi par des raisons extrêmement différentes. Il y avait des choses auxquelles je tenais. La première chose, c'était d'avoir des comédiennes qui donnent du contemporain au film, et tout en pouvant voyager en 1900 sans être totalement décalé. La seconde chose, c'était que ce bouquet, que ce collectif puisse exister. Je tenais à ce que ce soit des gens qui viennent d'univers très, très différents pour ne pas donner une unicité de jeu ou de style. Je crois que la première qui a été choisie, c'était Céline, qui a un parcours plutôt classique, conservatoire, etc. Je ne voulais pas qu'il y en ait deux qui aient ce parcours-là. Il y a le cas d'Afsia, par exemple, qui a déjà de l'expérience, mais qui vient du casting sauvage. Le cas d'Alice ou d'Iliana, qui n'ont jamais joué auparavant. Donc tout ça donne. Voilà, c'est un puzzle. Et après, quand on arrive à la dernière, qui a été Jasmine. Eh oui, c'était.
Surprise.
Le choix de Jasmine va parce que Jasmine m'intéresse et aussi parce que ça compose ce qui manque. Donc voilà, c'est un peu un casse-tête, un joli casse-tête. Et puis, il faut pas oublier qu'il faut qu'elle joue bien. Donc le casting a duré à peu près 8-9 mois, de Céline à Jasmine.
Monsieur là.
Oui, bonjour Thomas Siemiński, Radio Publique Polonaise. Donc justement, ma question concerne la très belle qualité d'image. Donc c'est pas parce que Monsieur Bin nous l'a suggéré, mais parce que vraiment le film impressionne par l'image, par l'éclairage. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce travail, des références peut-être picturales, artistiques, des peintres peut-être qui vous ont inspiré pour ce travail, l'image très travaillée et mis à part évidemment les toutes dernières secondes du film, les images très crues sur les boulevards. Évidemment, il y a un contraste très, très clair.
Bonjour. J'ai pas l'habitude d'être face à la caméra. Je suis plutôt derrière, habituellement. Je vais essayer de répondre à votre question. Alors, la première chose, c'est que, bon, on a des données. Et les données, c'est une maison close, donc un lieu unique. Et un film d'époque. comment est-ce qu'on conçoit une lumière qui serait à la fois réaliste et en même temps qui serait complètement fantasmée, parce que comme on s'est souvent dit avec Bertrand, ce lieu est un théâtre, c'est un lieu de fantasme. Donc on concilie à la fois une lumière réaliste, en fait on reprend des accessoires d'époque et là-dessus on pose nos propres envies. Et sur ce film, c'est vrai que c'est un film sur, on parle de sexe, mais c'est quand même un film globalement qui se passe sur les visages. Et donc comment on filme un visage, comment on éclaire ces femmes qui sont magnifiques et qui sont fortes, et voilà. Disons qu'on a beaucoup, on s'est beaucoup documenté avec Bertrand, de choses très très différentes, de choses très belles, de choses un peu moins belles, et après on les a abandonnées. Ce qui fait que dans notre mémoire de l'instant, restaient ces images peut-être, mais on n'a jamais essayé de recréer un tableau, par exemple, ou de calquer, ce qui n'aurait eu aucun sens.
Juste pour préciser sur l'image, il y a deux univers très différents et éclairés un peu différemment dans le film. Il y a leur lieu de travail, et puis qui est éclairé d'une certaine manière, et puis les lieux d'intimité qui sont moins de parades, où il y a plus de bougies, des choses comme ça. Donc,
disons qu'on était parti sur une idée comme ça théorique, mais il faut bien poser les choses à un moment, que voilà, ce lieu était sur 3 étages et qu'à chaque étage on allait éclairer un peu différemment. Au rez-de-chaussée, voilà, on posait une telle lumière. On s'était dit qu'à l'époque, c'était vraiment au moment où l'électricité arrivait en France. En Angleterre, ça se posait pas. Et donc, qu'au rez-de-chaussée, donc, il pouvait avoir cette lumière électrique. Et que plus on montait, plus on remontait dans le temps aussi au niveau de la technique, quoi. Donc, lampe à pétrole, bougie, etc.
Bonjour, Philippe Rouillet pour la revue Positif. Moi, je voulais rebondir sur la question tout à l'heure du casting et du coup m'adresser aux comédiennes, peut-être aussi celles qui sont au premier rang, pour savoir comment vous avez travaillé avec Bertrand Bonello. Est-ce que avant le tournage, est-ce qu'il vous a donné des informations, de la documentation, montré des films? Et puis après, comment vous avez travaillé, notamment les scènes de groupe, hein? Est-ce que il y avait une part d'improvisation? Est-ce que c'était très chorégraphié? Est-ce que vous avez vraiment des placements? Est-ce que vous-même avez proposé des choses? Voilà, comment enfin, voilà, ça fait beaucoup de sous-questions, mais c'est la même chose, quoi. Comment vous avez travaillé avec lui pour cet enfant?
Alors, on commence par qui? On va commencer par Noémie, puisque c'est la patronne.
C'est un traitard.
Je demandais à Bertrand qu'on fasse des lectures et qu'on répète en préparation. Bertrand avait pas envie, on se voyait et je me souviens moi j'avais derrière la tête ce que je lui disais pas, ce qu'il savait sans doute que je jouais lui. Tu le savais?
Écoute. Un peu.
Ouais. Et puis je me souviens que je lui parlais de Régine, qui est une femme que je connais pas, enfin dont je connais un peu le travail, mais qui m'impressionne beaucoup. Et lui me répondait Ingrid Cavan. Voilà. Et ensuite j'ai compris que la Polonide était le nom d'une maison que Bertrand avait bien connue. Et mine de rien, comme ça, je lui posais des questions sur la maîtresse de maison, et j'ai beaucoup pensé à cette maîtresse de maison sans la connaître. Et puis ensuite le travail c'était d'être avec les filles, et tout ce que je pouvais, enfin tout ce que Bertrand a mis en place entre nous qui était c'était très beau. Par exemple, moi, je me souviens de réunions qu'on faisait chez Bertrand, où on était toutes autour de la table, et Bertrand était debout, un peu en retrait, comme ça, les bras croisés, et il nous regardait. Et il laissait le groupe se faire.
On va demander à Alice, c'est votre premier rôle à l'écran ?
Affirmatif.
Comment est-ce que vous étiez intimidée ? Comment est-ce qu'il y a eu un long travail de préparation de, comment ça se passait pour vous ?
J'étais liquéfiée, oui. En fait, de préparation, oui, j'ai fait ma popote à moi de mon côté, mais bon, ça, c'est pas très intéressant. Après, je pense que je me suis laissée imprégner du décor de la maison, d'être imprégnée des couleurs, de la lumière, même des matières, des tissus, tout ça, ça aide beaucoup. Et puis de l'ambiance, des filles, des costumes, de la coiffure, tout ça, c'est des cadeaux, c'est des vrais cadeaux. Et encore mieux avec le maquillage aussi, ça, c'est vraiment des choses qui aident à être dedans.
Et le rapport avec vos partenaires, avec les autres filles, comment est-ce que... Parce que vous étiez l'une des moins expérimentées, on va dire.
Du coup, on s'est dit qu'on a beaucoup à apprendre des autres, donc je les observais attentivement.
Jasmine, quel directeur d'acteur, quel genre de directeur d'acteur est Bertrand Bonello ?
J'ai adoré.
Attention.
Il veut que je parle en français parce que comme ça, il comprend tout. Et après, il me frappe. Alors, désolé pour mon français. Alors, j'étais vraiment étonnée par son scénario. Et j'ai toujours un rêve en Italie de lire quelque chose qui raconte une fille, une femme, qui n'a pas seulement... une femme mariée, qui n'a pas seulement une fille de quelqu'un. Et quand j'ai lu 12, 13 personnages féminins comme ça, j'ai dit, mais c'est plus qu'Almodovar pour moi. Je ne veux pas dire ça ici pour te... Mais vraiment, pour moi, c'était énorme. Et il est allé vraiment dans cette direction. C'est-à-dire, on était différentes, et il était différente avec chacune. On a lu, on a regardé des tableaux, on a écouté de la musique, très important. Et après, surtout, on a appris à serrer et desserrer des corsets. C'était vraiment quelque chose de formatif.
Quelle musique vous avez écoutée ?
Oh, j'avais fait une compilation de musique. Alors, certaines sont dans le film, d'autres non. Mais ce sont des choses qui soit m'ont accompagné pendant l'écriture, soit qui m'évoquent des choses. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais régulièrement, de donner des CD aux comédiens en leur demandant un mois avant... d'écouter ça une fois par jour. Parce que je pense que c'est extrêmement parlant, ça se passe de mots, on n'est pas obligé de dire ton personnage c'est ci, c'est ça. Ou alors on met un morceau, on dit le personnage c'est ça. Mmh. Et moi, ça me repose. J'ai moins à parler. Et je crois que c'est y a quelque chose quand même d'émotionnel qui. Voilà, c'est le pouvoir de la musique aussi.
Afzia, vous avez travaillé avec un très grand directeur d'acteur déjà, qui est Abdelatif Kechiche. Quelle différence vous verriez dans le rapport de Bertrand Bonello avec vous comme actrice?
En fait, chaque metteur en scène est différent. Donc c'est difficile de
comparer oui.
Surtout que c'est des univers très différents. Mais c'est vrai que Bertrand, c'est quelqu'un de très agréable, très gentil, très doux.
Contrairement à Abdel.
Non. Et qui nous fait confiance. Et une fois en fait qu'il nous a choisis, il nous fait confiance, quoi. Et c'est vrai que c'est super pour un acteur de se sentir aimé. Et ça nous donne confiance aussi et on y va à fond.
Vous avez l'impression qu'il vous laisse une certaine liberté dans le jeu ?
Oui, quand même. Après, c'est vrai que c'est un film d'époque et que on ne peut pas trop en faire à notre tête, quoi. Ça dépend. Enfin, on va pas parler moderne.
Alors, y a les actrices, je vais citer leurs noms. Il y a Céline Salette, Adèle Haenel, Iliana Zabet, Judith Lou-Lévy, Pauline Jacquard, Maya Sandoz, Johanna Grudzinska et Esther Garel qui sont là ici. On ne va pas leur donner la parole à toutes parce qu'on n'aura pas le temps pendant cette conférence de presse de faire parler tout le monde, mais est-ce qu'il y en a une parmi vous qui veut rajouter quelque chose?
Adèle, elle aime bien parler.
Ah, Adèle aime bien parler. Oui, 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 pour qu'on puisse vous voir.
Je veux dire
que...
Je veux quoi?
Ouais, parlez de vous. Ouais. Parlez-nous de votre travail avec Bertrand Bonello. Et comment est-ce que vous faisiez travailler dans une scène de groupe, notamment, quand vous étiez 6 ou 7?
En fait, je pense que ce que Afshia a dit, c'est vrai. C'est embarrassant de vous regarder comme ça. De toute façon, on est un peu prof. Mais non, c'est vrai ce qu'a dit Afshia, mais parce que, tout simplement parce que quand on est plein dans une scène et que j'imagine qu'on contrôle au combo 12 personnes, on ne peut pas vraiment contrôler exactement les faits et gestes de chacun. Donc on a tous la responsabilité de...
Oui, c'était chorégraphié, mais elle a... Elle a quand même rappelé, parce qu'elle a l'impression que quand même, ce bordel, c'était le bordel. Pas du tout. Dire, oui. Non, mais on était quand même toutes vraiment hyper dirigées par Bertrand, qui est un homme qui est complètement fasciné par les acteurs quand même. Ça l'intéresse énormément. Tous les matins, on avait des chorégraphies, des scènes de salon. Et on faisait des répétitions de déplacements techniques. C'est des choses qu'on oublie parce qu'on se laisse embarquer par l'émotion qui nous est restée de l'histoire, l'émotion d'être ici, l'émotion de voir le film. Moi, je pense que c'est quand même important de rappeler que Bertrand, il a taillé sa dentelle pour tisser le film tel qu'il est aujourd'hui de manière ultra précise. Je trouve que le film, c'est le résultat de ce travail de dentelle incroyable fait à chaque instant sur le tournage et pendant les 6 mois de montage qu'il a passé après avec... la matière, les images. Et je voudrais le saluer parce que moi je trouve qu'il a fait un grand film et je voudrais lui dire merci. Merci de nous avoir laissé être la dentelle de ton film, Bertrand. Et bravo.
Hi, this is Mateo Sancho from Spain and I would like to ask Bertrand Bonello. This movie is a portrait, a very artistic portrait, and about prostitution. So I would like to know how you deal the art with morality. Do you think art is above morality? Do you think art has nothing to do with morality, or how do you take this idea? Thank you.
Je réponds en français ou en anglais?
En français, oui, il s'est traduit.
Non, je crois que la question du sujet et de la forme, je crois que la forme ne doit pas se faire embarquer par son sujet. Et ce n'est pas parce qu'on traite de prostitution ou d'un autre sujet qui serait comme ça un peu dur et sérieux que la forme n'a pas droit à sa propre liberté. Je crois que... On peut avoir un objet esthétique et parler de la prostitution, c'est pas antinomique. Croire que ce sera antinomique serait, à mon avis, une grosse erreur. Après, ça augmente le nombre de questions qu'on doit se poser et qu'il faut régler en termes de mise en scène. Voilà. C'est le rapport entre la morale d'un sujet et l'esthétisme, si j'ai bien compris la question.
Est-ce que pour continuer sur cette question de la morale, je pense, dans votre film, la question du point de vue est très importante, de là où on place le spectateur, de quel regard on se place pour observer cette histoire.
Mais c'est un mélange entre le mien et celui des personnages féminins, c'est-à-dire que... On a des images de maisons closes qui nous viennent évidemment des tableaux, on a des idées sur les maisons closes qui viennent de textes, il y a énormément de choses. Moi j'ai commencé à me documenter un peu, au bout d'un moment j'ai arrêté parce que j'aurais passé 4-5 ans à lire, c'est un puissant sans fin. Mais tout ce qu'on a, ce sont des regards d'hommes, ce sont des peintres qui allaient, qui rentraient chez eux, qui peignaient, ce sont des écrivains qui rentraient écrire, etc. etc. Donc là, il y a ce que j'avais envie de faire, c'est plutôt que d'avoir le regard d'homme sur ces femmes-là, c'était le regard de femmes sur les hommes qui regardent ces femmes-là. C'est un espèce de ping-pong en plus. Et puis ensuite, il y a mon propre point de vue qui est, je pense, assez affirmé par les cadres, le montage et la mise en scène.
Oui, bonjour. Jo Kortra de Maastricht, Pays-Bas. J'ai une question pour Hafsia Herzi. Vous êtes dans deux films en compétition. Est-ce que vous avez déjà l'idée que vous deviez une vraie vedette maintenant?
Non. Non. Bah, j'espère surtout que les films vont plaire, parce que c'est deux très beaux films qui me tiennent beaucoup à cœur. Voilà. Après, j'espère pas, non. J'ai le temps.
C'est pas encore la grosse tête.
Bonjour, Marie-Jeanne Asmar, Prestige Liban. Je voulais vous demander, Monsieur Bonello, vous avez décrit une maison close, mais est-ce que vous défendez, quel est votre point de vue en ce qui concerne les maisons closes? Parce qu'il y a tout un débat aussi pour savoir si c'est mieux de les réouvrir ou laisser les filles dans la rue comme vous faites vers la fin du film.
Je pourrais vous répondre à ça, j'ai un point de vue qui est personnel, soit. Après, je pense que là on sort du film, c'est pas un film qui est là pour ouvrir ce débat là je préfère qu'on parle de la mise en scène, des personnages, de l'histoire. Vous tenez à ce que je réponde? C'est pas que je veux pas répondre, mais c'est pas le débat du film, en tout cas c'est pas le sujet du film, non.
Il y a quand même une chose dans ce film, c'est qu'on a toujours, on a d'emblée ou assez vite l'impression d'un monde qui va mourir, enfin qui va être remplacé par autre chose. On a l'impression que cette maison close précisément va fermer, qu'elle a dû et qu'elle va être condamnée. Donc il y a ce côté.
Mais c'est très juste. Voilà, ça, je pense que c'est en fait le cœur du sujet du film, hein, c'est-à-dire la disparition, d'un lieu. Mais au-delà de ça, d'une époque, le 19e se termine, le 20e arrive. Le 19e se termine avec des idées sur le 20e à venir qui sont complètement fausses. Et le 20e siècle ne fera que donc les contredire. Cette espèce de décadence, en fait, c'est ça la décadence. On assiste très lentement à la fin des choses et beaucoup plus au cœur du film. Alors oui, tout change. À la fin... un monologue sur le métro, les prostituées se retrouvent dehors, ce passage d'un temps à un autre est pour moi au cœur du film. C'est quelque chose qui moi m'a toujours beaucoup touché, la fin inéluctable des choses, et on sait très vite dans le film que la maison on va fermer, donc on y assiste.
En même temps je pense aussi une note d'espoir, même si elle est elle est mince, mais il y a quand même une des filles qui arrive à s'en sortir ou à sortir de la maison. Enfin...
Oui, c'est, il ne faut pas non plus que ce soit un destin totalement fermé pour toutes. Après, celle qui s'en sort, c'est le personnage de Pauline qui est joué par Eliana. C'est celle qui arrive et qui repart très tôt, avant que ça ne soit trop tard, parce que c'est pas un destin à vie, ça l'est pour un autre personnage qui est celui joué par Céline, et ça ne l'est pas pour la jeune... Pauline à côté d'elle, c'était pas pour que chacune ait son destin, etc., mais c'est parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup.
Allez-y.
C'est pour le metteur en scène. Il y a la comparaison pendant les films entre les voleurs et les prostituées pour la tête petite. C'est quelque chose que c'est documenté, c'est quelque chose que vous avez trouvé pendant la recherche?
Et malheureusement, oui, c'est quelque chose qui est vrai. J'avais trouvé un bout de ce texte, après j'ai trouvé l'étude au complet, qui doit dater de 1890, je crois. Et c'est une très longue étude scientifique qui mesure la taille des cerveaux des prostituées. Ça fait partie. Il y a énormément de choses dans le film qui viennent de documents, qui sont même des copier-coller d'époque. Et ça en fait partie.
Dans les sources d'inspiration, il y a certes de la documentation, mais je pense qu'il y a aussi de la fiction littéraire. Surtout, j'ai pensé à L'homme qui rit de Victor Hugo, qui devient la femme qui rit ici. Mais C'est une idée qui vous est
alors, venue. Valkyrie, bon, c'est vrai que c'est un souvenir d'enfance qui m'a traumatisé, ce film, la version de 29.
La version de Paul Leni.
Oui, de Paul Leni, avec Conrad Veidt. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à penser à ce sujet et j'ai commencé à écrire, j'ai fait 3 nuits de suite un rêve de ce film. Alors, j'utilise rarement les rêves pour écrire. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais essayer, voilà, on va voir. Si on passait de l'homme qui rit à la femme qui rit, qu'est-ce que ça donne? Et puis après, ça ouvre un boulevard fictionnel.
Bonjour, Frédéric Rougeau, RCF. C'est un film qui met magnifiquement en scène les femmes, mais il y a aussi des hommes, des acteurs, avec un casting assez étonnant aussi, Jacques Nolot, Xavier Beauvois, qui sont des réalisateurs, ou alors encore cet acteur qu'on a vu dans le film de Mai Wen. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Un petit peu comme pour les femmes, hein, c'est-à-dire... Pardon, excuse-moi. Il faut trouver des acteurs masculins qui peuvent voyager en 1900, alors même si je ne suis pas obsédé de la reconstitution, mais il y a quelques... Et je crois que c'est presque encore plus dur pour les acteurs que pour les comédiennes. Et les comédiens, bah, Louis Do de Langzin, que vous citez par exemple, c'est quelqu'un qui sait mettre un bouton de manchette. Bon, ça a l'air de rien, mais c'est pas évident. Après, voilà, Jacques Nolot, je l'ai pris essentiellement pour une chose. C'est vrai qu'il écrit une lettre à Jasmine, au personnage de Julie. Et en écrivant, j'entendais sa voix. Voilà, on choisit les gens aussi pour un détail, parfois un peu tellement minuscule aux yeux des autres, mais qui pour vous vous touche, un détail affectif, une mémoire de quelque chose. Et j'entendais Nolot dire cette lettre, et quand il l'a dite sur le plateau, on l'a enregistrée pendant l'heure du déjeuner. C'était ce que j'avais en tête depuis le début. C'était cette émotion-là que je voulais. Chaque choix, chaque comédien et comédienne, hein, les choix viennent de... On ne sait pas pourquoi, des fois, on ne sait pas pourquoi.
Monsieur là-bas.
Bonjour. Wilfried Xbrel, l'agence Reuters. Est-ce que je pense que vous avez dû voir Flowers of Shanghai de Wu Xiaoxian?
Je l'ai vu quelques fois, oui.
Et j'ai trouvé qu'il y avait une similitude dans le rythme et la façon de montrer des histoires tragiques, voire une violence non toujours affirmée, de la montrer de façon presque apaisée. Et je voulais savoir comment vous avez réussi à déterminer le rythme de votre film.
Alors le rythme, il vient d'abord, évidemment, il y a écriture, tournage, montage, hein, donc c'est ce rapport-là. Mais il y a, je pense, je réfléchis à voix haute, mais une des choses qui me semblait le plus difficile, c'était de déterminer l'ambiance des salons, par exemple. Je voulais absolument éviter le côté où ça parle trop fort, le côté un peu folklore, le Moulin Rouge, etc., qui pour moi m'aurait ramené à des choses que je déteste au cinéma. Quand on commence à feutrer tout, ça peut tomber dans une côté presque église qui ne marche pas non plus avec une maison close. Donc il y avait l'ambiance, mais j'ai presque envie de dire l'ambiance sonore qui est comment la trouver? Et puis c'est à un moment, il y a quelque chose qui m'est apparu, mais c'était déjà, le tournage était commencé, c'était quelque chose d'un peu opiacé, comme ça, qui pouvait, alors ça rejoint peut-être les Fleurs de Shanghai, qui est un film totalement sous opium, voilà, ça crée quelque chose qui reste de la sensualité, qui reste un lieu comme ça, un peu vivant, etc., et qui n'est pas au taquet sonore d'une espèce de folklore d'un Paris 1900. Et cette ambiance opiacée a énormément géré aussi le rythme au montage, et cassé après par d'autres scènes qui ne le sont plus du tout. Voilà, je pense que le film est vraiment un film de contraste. Hein,
Attendez, on ne vous entend pas, monsieur.
C'est une question juste personnelle. Est-ce que vous prenez toujours des cours de piano?
Non, je suis devenu trop paresseux. J'ai arrêté les cours de piano il y a très longtemps.
Oui.
Bonjour, Cécilia Ranson, Radio Azur. Une question qui s'adresse donc à toutes les actrices. Je vais aborder le thème de la nudité, puisqu'on vous voit donc pour les besoins de la caméra, vous devez vous dénuder, et donc vous êtes très très jolies toutes. Et je voulais savoir si ça avait été difficile pour vous de vous dénuder comme ça devant la caméra, ou le fait d'être en groupe entre vous, d'être nue, c'était plus facile à aborder. Afsia, peut-être? Mais aussi pour les autres, hein, si elles veulent répondre.
Non, ça n'a pas été difficile, en tout cas pour moi, et je pense que pour les autres filles aussi, parce que vraiment, on était comme en famille. Enfin, c'est bizarre, c'est difficile à expliquer, mais il n'y a pas eu de pudeur. On en rigolait. On était toutes dans le même cas, donc. Et je pense qu'on n'aurait pas fait le film si on avait eu un problème avec ça. En même temps, je trouve que c'est pas très dénudé au final. Ouais, c'est très beau. Ouais. Voilà.
Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à ajouter, d'autres comédiennes du film sur
Adèle.
Non, elle met son sac devant sa bouche, donc à mon avis. Oui, attendez, on va vous donner le micro.
Peut-être que le travail de la nudité pour une comédienne, il n'a jamais autant de sens que dans ce film-là.
Oui, tout à fait.
Ouais. Et en plus, on savait qu'on, enfin, en voyant le cadre et tout, qu'on était très préservés, en fait.
Une des premières scènes qu'on a tournées est une des premières scènes du film qui se passe dans une antichambre où elles sont toutes seins nus et qu'elles s'habillent. Donc en effet, quand on attaque là, quand on en met 12 dans le cadre, voilà, il y a quelque chose, il y a plus. C'est pas moi qui suis nu, c'est nous sommes nus. Bon, et puis ouais. Ce qui était important, c'est qu'elles ne se sentent pas nues, que ce soit absolument normal. Voilà. Ne pas jouer la nudité comme quelque chose d'extraordinaire, mais d'absolument banal,
naturel.
Oui, une autre question pour la radio polonaise. Vous avez dit tout à l'heure que vous cherchiez des comédiennes et des comédiens qui pouvaient voyager, enfin, se déplacer dans cette époque. En même temps, vous leur avez ajouté une musique qui n'est pas du tout de cette époque. Évidemment, c'est un rock qui étonne parfois. Quelle était votre raison pour faire cela? Et une toute petite question très différente à propos d'une des comédiennes qui porte un nom polonais que vous avez prononcé, Joanna Grudzińska. Moi, je dirais plutôt Joanna Grudzińska. J'aimerais bien savoir quels sont ces liens avec la Pologne, étant donné que je travaille pour la radio polonaise.
Son numéro aussi.
Je vais répondre à ma question après. J'ai dit qu'ils pouvaient voyager dans le temps, mais ce que j'ai dit avant, c'est qu'ils donnent aussi beaucoup de contemporains. C'est-à-dire que je ne voulais pas non plus qu'elles jouent à être en 1900. Je voulais qu'elles soient elles-mêmes. Et je réponds aussi à une question qu'avait posée monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, 50% des personnages, c'est ce que moi j'ai écrit, et 50% c'est ce qu'elles amènent elles comme personnes. Et ça, j'ai voulu respecter ça, tout en dirigeant, en effet, le film est très précis sur la direction, mais il y a aussi, je ne veux pas casser ce qu'elles m'amènent. De la même manière, ce sont des filles d'aujourd'hui, c'est un film d'aujourd'hui. De toute manière, le film, il n'est pas de 1900, il est de 2011. Et quand on le reverra dans 40 ans, quelqu'un, si on le voit dans 40 ans, un spectateur dira c'est un film de 2011, comme si on voit aujourd'hui un film des années 70, même si c'est un film d'époque, on sait que c'est un film des années 70. Donc, voilà, c'est ça. Quand je dis, il faut aussi que ça puisse voyager dans le temps, dans le sens, il ne faut pas que ce soit absurde de leur mettre un corset, mais elles amènent du contemporain et du présent au film. Il faut que le film ait du présent. Quant à la musique, c'est aussi pour ces raisons en partie, mais c'est aussi pour d'autres raisons. C'est vrai que c'est une musique que moi j'écoutais beaucoup en écrivant, que c'est une musique, c'est un peu de la soul, ça touche à l'esclavagisme noir. La soul, c'est l'âme. Ce sont des liens affectifs que moi je me fais, qui me parlent, qui n'ont pas non plus plus de raisons que ça.
Ah, la comédienne polonaise, au nom polonais.
Bonjour de nouveau, Émilie Olivier. J'avais une question pour les comédiennes, toutes les comédiennes, Avia, Yasmina, Adèle, Céline. Les personnages que vous incarnez traversent des choses très difficiles. Et même dans les choses gays qui sont représentées à l'écran, comme par exemple la présence de la panthère, je pense que ce n'est pas forcément facile à tourner. Je voulais savoir donc quelles étaient les scènes les plus difficiles pour vous à tourner. Merci.
Alors, à tour de rôle. Et puis après, on va terminer parce que, évidemment, le temps de faire le tour de table. La scène la plus difficile à tourner. On peut faire passer le micro s'il y a une des comédiennes. Voilà. Parce qu'elles réfléchissent toutes maintenant. Allez-y.
Non, bon, il faut bien que quelqu'un parle. Pour moi, c'était, je pense que c'était le salon bourgeois. C'était pas difficile techniquement, mais il y avait une ambiance très très particulière. Il n'y avait pas besoin d'être joué, qui était là, qui était présente, sûrement par le lieu. Enfin, il y a quelque chose de très.
C'est-à-dire, c'est le seul lieu intérieur qui ne soit pas la maison close, oui, dans le film. Et où vous avez un.
Donc peut-être, ouais. Du coup, ça me fait penser peut-être que c'est ça aussi qui m'angoissait, parce qu'après avoir passé en effet un mois dans un endroit où on sait qu'on est chez soi, plus ou moins, c'est vrai qu'il y avait là d'un coup un lieu étranger, et voilà, où en plus les filles n'étaient pas là, et sans les filles. Les filles, voilà. Donc c'était assez angoissant, en fait. Voilà.
Est-ce que. Afzia?
Pas de souvenirs de scènes difficiles, mais parce que toutes les scènes ont vraiment été un plaisir à tourner, vraiment, avec toutes les copines.
Jasmine,
donc que du bonheur.
Allez,
pour moi, la mort, parce que je bougeais tout le temps et j'étais pas préparée. Désolée.
Noémie,
je crois le dernier jour dans la maison close. Parce qu'il y a dans le film, pour moi, comme disait monsieur, une violence sourde et qui est contenue, une mélancolie toujours contenue. C'est pour ça d'ailleurs que Bertrand me parlait d'Ingrid Cavan pour la superbe, quoi, et le film est commenté par la fin, et quand on est arrivé au tournage du dernier jour dans la maison, j'avais l'impression que je ne pouvais plus contenir tout ça, et il fallait le contenir, parce que jusqu'au bout, il faut rester droit.
C'était la fin du tournage aussi, c'est-à-dire que c'était un peu tourné dans l'ordre
C'était dans les derniers jours, ouais. Non, je ne crois pas que ça a été le dernier jour, non, ce n'était pas le dernier jour de tournage, mais c'était dans la dernière semaine, je pense.
C'est-à-dire, vous voyez aussi, à ce moment-là, arriver la fin d'un tournage où vous avez été très proches, tout ensemble, dans le même décor tout le temps.
Oui.
Ouais. Oui, moi là-dessus, je me souviens d'ailleurs, la dernière semaine, un matin, je suis arrivée sur le plateau et j'ai vu des gens porter, sortir les décors, sortir les canapés, sortir les lits, et ça m'a complètement angoissée. Mais ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font? Et tout. Les pièces qui commençaient à se fermer, à redevenir ce qu'elles étaient avant. C'était, c'est vrai que ça correspondait un peu à la fermeture dans le film, en tout cas de la maison. Et ça faisait très, très bizarre. C'est vrai que ça.
Écoutez, merci à tous et merci à notre assistance d'avoir posé autant de questions. Merci, bravo. Merci.